beaucoup pour votre attention.
Je remercie Madame Zoé Karima pour son intervention. Et maintenant, c'est au débat qui a des questions à poser.
شكرا سيد الرئيس. مستشار قراوي جمال، عضو لجنة التعويض. بون قراوي جمال سي على كوتشي
اتوندي سي جو بلي
انا نهضر مع فرونسي. بون بريزون قراوي جمال conseiller suprême, membre de la commission de l'éducation, en nom de justice. شكرا سيد الرئيس. قلت جو مي بريزونت قراوي جمال كونسيي لا كور سوبريم مومبر دو لا كوميسيون دو ريباراسيون دي لومبريزونمون نون جيستيفي. اون كيستيون ا مسيو لو برومي بريزيدون دو لا كور دو كاساسيون فرونسيز. فوز افي ايفوكي او بارلي دو فوز افي بارلي دو la Cour de cassation en tant que garant des libertés individuelles et collectives. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur les pourvois en cassation contre les décisions, à l'encontre des décisions des jugements et, ou bien des décisions de réparation de l'emprisonnement non justifié, des décisions rendues par la Cour par la Cour de cassation française. Ma deuxième question à M. le procureur général de la Cour de cassation française. Pouvez-vous nous donner plus d'éclaircissements sur le rôle et les prérogatives du procureur général de la nation que vous avez évoqué? Est-ce que c'est-à-dire nous, en Algérie, nous n'avons pas cette fonction, et aussi en France. En Égypte, il y a le poste de procureur général nommé par le Conseil supérieur de la magistrature égyptien, et il est indépendant du pouvoir exécutif. Et il dépend de ses actes devant le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous... Merci, monsieur.
La question que je souhaiterais poser à... en ce qui concerne le filtrage, nous sommes devant un dilemme, effectivement. Beaucoup de cours suprêmes se retrouvent devant un nombre important d'affaires à régler, et ce nombre-là exige la recherche de solutions. Néanmoins, il me semble que toutes les solutions qui ont été entrevues jusqu'à ce jour, aussi bien le filtrage Bon, peut-être dans certains pays aussi, c'est la mise en œuvre de procédures légales, c'est-à-dire des garde-fous légaux pour limiter le nombre des pourvois au niveau des cours de cassation. Bon, même l'absence de ces garde-fous légaux ou même l'absence de filtrage pose aussi problème, puisque devant ce nombre important, est-ce qu'on peut se demander, on peut se poser la question, est-ce que les cours suprêmes donnent suffisamment d'importance à toutes les affaires qu'elles traitent pour qu'elles puissent assurer réellement son contrôle dans l'application du droit. Il me semble que tout cela va nous faire buter devant un problème assez important, c'est le problème du procès équitable. La base d'un procès équitable, c'est permettre tous les recours. Si on ne permet pas aux citoyens on ne lui assure pas, c'est plutôt une étude sérieuse, approfondie de son affaire au niveau d'une cour suprême ou d'une cour de cassation. Si on ne me permet pas à la société, à travers le pourvoi que fait un procureur général, de faire étudier son affaire dans les meilleures conditions possibles, est-ce que cela ne porterait pas atteinte au procès équitable, qui est un concept universel et que tous les pays s'attellent à concrétiser réellement? Ma question est celle-là. Est-ce que tous ces efforts-là, finalement, ne seraient pas une atteinte à la concrétisation du procès équitable? Voilà.
Bonjour, messieurs. C'est Dres. Ma question serait dans le même sens que l'intervention du magistrat qui vient du monsieur le conseiller. C'est de dire le nombre d'affaires en cassation ne cesse d'augmenter. N'est-ce pas ça un cri de secours de la base qui veut dire que les justiciables se sentent lésés au niveau des juridictions de première et de deuxième instance, au lieu d'essayer de trouver de nouvelles nouveaux circuits ou nouvelles mécanismes afin de, comme si que nous refusons de voir la réalité et nous essayons de créer d'autres systèmes afin d'enfoncer plus le justiciable qui pousse un cri de... Je pense que mon idée est bien parvenue, monsieur le procureur, au moins. Merci.
Je me présente, Madame Hamissi, avocat général. Ma question, je l'adresse à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. C'est une question qui me tient à cœur et dernièrement, lors de mon séjour en France, je n'ai pas pu avoir la réponse qu'il fallait. Bon. La Cour de cassation étant une juridiction de droit, donc elle veille à la bonne application de la loi, l'interprétation des lois qui devient jurisprudence. Je sais que le procureur général en France joue un rôle très important dans le domaine de l'unicité et l'uniformisation de la jurisprudence à travers les cours de la Cour de cassation et les différentes juridictions. J'aimerais, monsieur le procureur général, que vous nous parliez de ce rôle que vous jouez justement dans ce domaine. Merci beaucoup.
Premièrement, je remercie Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général et la délégation qui l'ont accompagné de leur intervention. aussi bénéfique. Moi, je pose la question autrement. La question qu'a posée notre cher collègue M. Azrou sur la nécessité d'un pourvoi en cassation pour le procès équitable. Autrement dit, est-ce le fait de n'avoir pas ce droit de pourvoi affecte le procès équitable? Quelle est la position de la Cour européenne des droits de l'homme? A-t-elle exigé qu'il y ait un pourvoi pour toutes les affaires, contraventions, délits et crimes, pour dire qu'il y a un procès équitable? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà un premier degré, il y a l'appel, où il y a une composition collégiale, et le procès a pratiquement épuisé, si vous voulez, toutes les exigences de procès équitable. Je cite deux exemples. L'exemple du Canada, qui a une cour fédérale. Et en 2001, on s'était rendu au Canada pour voir un peu la réforme de la justice dans un cadre comparatif, etc. Et on avait posé la question au niveau de la Cour suprême du Canada. On nous a dit qu'il y a une moyenne d'une centaine d'affaires qui sont jugées. Le reste, c'est la non-addition qui est décidée par une commission. On s'est posé la question du procès équitable. On a dit, messieurs, mais chez nous, seules les affaires qui ont une portée fédérale, qui ont une portée nationale, qui sont donc sujets à pourvoi. Le reste, ça a été déjà, les voies de recours ont été épuisées, à la première instance, et la peine. Dans le même sillage, ne peut-on pas limiter les pourvois pour une certaine catégorie d'affaires? Le critère peut être, par exemple, la peine encourue. Pour les crimes, tout à fait normal, pour les crimes, maintenant nous sommes en train de réfléchir pour les cours d'assises d'appel, pour donner au moins... Alors là, cours d'assises d'appel pour en cassation. En matière criminelle, c'est plus ou moins justifié pour dire qu'il y a nécessité de procès équitable. Donc la question que je pose, au final, est-ce ce droit de pourvoi est nécessaire pour toutes les affaires, y compris les délits simples, où la peine est prévue, soit l'amende ou l'emprisonnement, et surtout pour les contraventions. Et c'est ça qui fait alourdir le stock chez nous de la Cour suprême et qui fait un peu durer, si vous voulez, le traitement des affaires. Quand bien même on essaie de trouver ces mécanismes de non-admission ou de filtrage ou de commission, on est en train de gérer un peu en dehors d'une réforme profonde, en profondeur. Merci, messieurs.
هل من سؤال؟ إذن أعطي الكلمة للأجوبة. Je donne la parole à Monsieur le Président pour répondre aux questions posées. Merci.
J'appuie ici, voilà. Bon. Des questions de nature différente, je vais reprendre dans l'ordre si vous le voulez bien. La première porte sur la réparation des détentions provisoires, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que la France a mis en place, il y a quelques années, une procédure spécifique de réparation des détentions provisoires intervenues dans les procès qui se terminent soit par des non-lieux, si un juge d'instruction avait été saisi, soit par des relaxes, si c'est la juridiction par le fond, ou un acquittement en matière de crime, si ce sont donc les juridictions du fond qui prononcent la relaxe ou l'acquittement. Cette compétence est confiée au premier degré au premier président de la Cour d'appel lui-même. C'est lui qui est saisi des demandes de réparation des détentions provisoires injustifiées. Et, je dirais, en appel de la décision du premier président de la Cour d'appel, ce n'est pas un pourvoi en cassation, c'est une forme d'appel, un recours qui est porté devant une juridiction nationale de la réparation de la détention provisoire, qui est une émanation de la Cour de cassation, parce qu'elle est présidée par un délégué du premier président et composée de magistrats de la Cour de cassation. Mais en dépit de cela, cette juridiction se détache de la tradition de la Cour de cassation et de son mode d'examen des recours, en ce sens que n'examine pas simplement les questions juridiques, la conformité au droit de la décision, elle reprend l'examen au fond. C'est donc un véritable appel, en réalité. C'est une, je dirais, un mécanisme à double détente d'appréciation au fond, sans pourvoi en cassation, bien que l'appel soit porté d'une certaine manière devant la Cour de cassation. Voilà, c'est un peu complexe et très spécifique. Il n'y a pas énormément de recours, enfin je parle de mémoire, hein. On essaiera de vous communiquer les chiffres exacts. Je pense que c'est entre 100 et 150, c'est ça, voilà. Entre 100 et 150 recours par an, voilà, par an. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme il s'agit d'une juridiction du fond, cette juridiction nationale, elle a établi finalement sa jurisprudence de fond avec un barème officieux qui envisage le maximum de cas de figure possible en fonction du préjudice subi. Était-ce une première détention, auquel cas on considère que le préjudice est plus lourd pour la personne qui tout d'un coup se retrouve détenue, que dans l'hypothèse où elle a déjà été détenue et donc le choc est moins lourd. C'est un type de différenciation qui est établi. La durée de la détention, évidemment, l'éloignement des centres personnels, de famille ou professionnels, le fait qu'on a perdu un emploi ou non, enfin bref, tout cela est pris en compte dans l'évaluation du préjudice effectif subi. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, je crois que c'était la question de monsieur. Ensuite, on a abordé le problème des filtrages. Alors, sous plusieurs aspects, Le filtrage ne heurte pas la question du procès équitable, ne heurte pas la notion de procès équitable. Est-ce que le filtrage n'est pas en définitive une solution déjà adoptée dans les pays anglo-saxons où il a fait ses preuves et pourquoi ne l'adopterait-on pas chez nous? Et puis enfin, dernier aspect, la conjugaison de la question du filtrage du pourvoi avec la réforme des autres voies de recours, si j'ai bien compris, notamment de l'appel. Et on a abordé spécifiquement la question de l'appel des contraventions. Est-ce qu'en droit européen, le pourvoi en cassation est nécessaire? Monsieur le Président Jean nous développera sans doute cet aspect plus que moi, mais je crois pouvoir vous répondre par la négative. Immédiatement, ce que le droit européen exige, c'est un droit au recours effectif, hein, contre la décision rendue, en tout cas à partir du moment où elle présente une importance suffisante. Mais le pourvoi en cassation, qui est en quelque sorte un troisième degré, hein, qui est un deuxième recours, lui n'est pas exigé en droit européen. Simplement, ce que nous dit la Cour européenne, c'est qu'à partir du moment où vous organisez un pourvoi en cassation, il faut que ce pourvoi corresponde à un recours effectif, à un droit effectif de voir examiner son recours contre la décision rendue. Donc, vous ne pouvez pas à la fois donner ce droit au pourvoi et en même temps le retirer en l'amenuisant et en lui posant des conditions telles qu'en réalité, il n'ouvre pas un accès au juge. Voilà quelle est la problématique telle que la Cour européenne nous la présente. Monsieur le Président Jean, encore une fois, spécialiste de ces questions, pourra en dire davantage. Donc nous, en France, nous avons ce pourvoi en cassation. Donc sur le terrain du droit européen, nous avons le devoir de l'organiser complètement. C'est ce qui fait toute notre difficulté de procéder par voie de filtrage, surtout si ce filtrage intervient avant l'entrée du pourvoi à la Cour de cassation, selon des mécanismes qui viennent contredire ce principe égalitaire très fort qui est à la base de notre droit au recours. Et le modèle anglo-saxon que certains défendent, il est soutenu en France avec force par ceux qui souhaitent renforcer le pouvoir normatif de la Cour de cassation, en tout cas le rendre beaucoup plus visible, détaché de tout ce qui peut correspondre à un simple pouvoir de régulation des décisions rendues de façon à en détacher toutes les décisions discordantes qui n'ont pas leur place dans le paysage uniformisé de l'ensemble des décisions. Ce modèle, donc, qui est défendu pour rendre plus lisible la jurisprudence de la Cour de cassation, en réalité s'inspire d'une tradition très différente de la nôtre. C'est ce qui fait toute la difficulté et le fait qu'il y a sans doute, on peut le dire, une opinion publique majoritairement opposée à cette formule, en tout cas parmi les professionnels du droit eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des travaux que nous menons à la Cour de cassation, ainsi que l'a exposé le président Jean tout à l'heure, nous explorons plutôt une forme d'amélioration de la procédure de non-admission de façon à sortir de la dérive dans laquelle, c'était très bien expliqué tout à l'heure, de la dérive dans laquelle nous sommes entrés et qui en définitive a fait disparaître de fait la procédure de non-admission, je dirais, en raison de la conscience professionnelle des magistrats qui se sont mis à traiter les affaires secondaires exactement de la même manière que les autres. Donc il faudrait que nous trouvions un système qui ancre le traitement séparé des pourvois, les affaires simples qui suivent un circuit simple et les affaires compliquées correspondent en quelque sorte à cette sélection, à ce filtrage des pourvois qui suivrait un régime de traitement renforcé. Voilà comment se présente en tout cas la problématique en France. C'est essentiellement une question culturelle. Et je pense que le recours à l'exemple canadien, qui est fondamentalement anglo-saxon, en dépit de la présence du Québec français, du Québec francophone, le recours à l'exemple canadien n'est pas pour nous déterminant. Il heurte vraiment notre tradition nationale. En revanche, ce avec quoi nous devons réfléchir à conjuguer nos efforts concernant le traitement du pourvoi avec d'autres méthodes d'appui, c'est le traitement de l'appel, effectivement. On parlait des premiers présidents des cours d'appel tout à l'heure, ils se sont prononcés très, très fortement en faveur d'une réforme de l'appel. Vous avez sans doute la même problématique que nous en France, consistant à choisir entre l'appel voie de réformation et l'appel voie d'achèvement. Pour faire simple, où on recommence le procès devant le juge d'appel à zéro, en cherchant de nouveaux moyens et en le présentant sous une autre forme, si on n'a pas réussi devant le juge de première instance, c'est l'appel voie d'achèvement. On achève le procès en le recommençant, en définitive. Et puis, il y a l'appel voie de réformation qui consiste à prendre le procès tel qu'il est sorti du juge du premier degré sans plus y toucher, prendre le dossier que le juge du premier degré a jugé, le poser sur la table du juge du deuxième degré sans rien y ajouter et lui demander s'il est d'accord ou non avec la décision du premier juge. C'est l'appel voie de réformation. On réforme ou on confirme ce qui a été déjà jugé. Alors c'est certain que ce mode de traitement de l'appel peut avoir une incidence forte sur le nombre des pourvois en cassation, car ce qui aura été jugé deux fois de la même manière devant deux juges différents aura moins de chances de prospérer devant la Cour de cassation que si on a recommencé le procès devant le deuxième juge contre la décision duquel on fait un pourvoi et qui sera donc examiné dans sa régularité pour la première fois par la Cour de cassation. Voilà. Donc, je pense qu'il n'est pas anodin du tout de joindre la question de la réforme de l'appel et celle du filtrage des pourvois en cassation. Un dernier mot sur l'appel des contraventions, parce que j'ai vu que c'est un sujet qui est très préoccupant pour la Cour suprême d'Algérie. Chez nous, toutes les petites contraventions, elles sont divisées en cinq classes. Je pense que il y a cette division aussi en droit algérien. Elles sont divisées en cinq classes. Les quatre premières classes ne donnent pas lieu à appel, mais à pourvoi en cassation directement. Et seules les contraventions les plus importantes donnent lieu à appel et à pourvoi en cassation. Ensuite, donc, c'est le régime de droit commun. À la Cour de cassation, nous demandons que les petites contraventions soient également soumises à l'appel pour éviter que la Cour de cassation ait à connaître hein, comme juge en définitive du deuxième degré, mais juge de la légalité seulement, de toutes ces petites affaires qui l'encombrent. On a environ entre 500 et 800 pourvois, hein, sur les 8000 que... Donc c'est à peu près presque 10% des pourvois que reçoit la chambre criminelle, puisque nous avons une chambre pénale unique qui s'appelle la chambre criminelle, mais qui juge aussi les délits et les contraventions. Hein, nous avons entre environ 10% de pourvois qui correspondent à ces petites infractions pour lesquelles nous souhaiterions simplement un appel. Ça ne veut pas dire qu'obtenant l'appel, il n'y a pas le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, puisqu'encore une fois, chez nous, on a généralisé la possibilité de former un pourvoi en cassation contre toutes les décisions rendues en dernier ressort. Et il n'existe pas de dérogation à cette règle. C'est toute la question du filtrage à laquelle, donc, je reviens en terminant, après avoir commencé par là.
Juste répondre, moi également, dans l'ordre des questions qui ont été posées. Tout d'abord, sur le rôle et les prérogatives du procureur général de la Nation, appuyer, monsieur le conseiller, sur l'exemple égyptien que vous avez cité. De quoi est née l'idée de la nécessité d'un procureur général de la Nation ? C'est une idée qui n'est pas récente. C'est une idée qui n'est pas récente et qui avait déjà été évoquée lors d'une commission de réflexion sur la réforme de la procédure pénale et la réforme du statut du ministère public, commission qui avait été confiée à un ancien Premier ministre, M. Balladur, qui, à l'époque déjà, avait posé régulièrement la question aux plus hauts magistrats du ministère public, mais aussi aux chercheurs, à l'université, de la déconnexion du lien entre l'échelon exécutif, le ministre, et le ministère public, au moins en s'agissant de la conduite de l'action publique. À l'époque, d'ailleurs, les avis avaient été divergents, voire changeants, puisque Jean-Louis Nadal était devant la commission, mon prédécesseur, devant la commission Balladur contre le procureur de la Nation, et que dans son dernier discours de rentrée solennelle de la Cour de cassation, en 2011, il s'est montré favorable à l'institution. Dans mon esprit, cette nécessité de la création d'un procureur général de la Nation vient d'une convergence de deux impératifs. Comme je vous l'ai dit, le premier impératif, c'est qu'en abandonnant légitimement la fonction de régulateur sur le territoire national de l'action publique, le ministère s'est retiré de la gestion de l'action publique, et c'est bien, c'était une source de critiques fréquentes, nombreuses, légitimes. Mais du coup, la place est libre. Il n'y a plus en France de fédérateur du ministère public. Et ça n'est pas un colloque, une conférence de 36 procureurs généraux qui va pouvoir suppléer cette carence. Et mon avis, c'est la convergence avec un autre impératif, c'est que je pense que le ministère public doit avoir des garanties de détachement de l'exécutif. Comment justifie-t-on ce rattachement encore au ministère public ? C'est par la distinction en France entre politique pénale et politique d'action publique. Politique d'action publique, traitement des affaires particulières. Politique pénale, légitime. Le gouvernement est élu sur un programme. Les électeurs ont fait confiance à ce programme. Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de ce programme dans ce domaine particulier de la justice. Il doit pouvoir, finalement, faire exécuter ses priorités. Mais, mon Dieu, les magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, sont légalistes. La politique pénale, elle se décrit dans la loi, elle se décrit dans le règlement que les magistrats, comme les citoyens, sont en charge de respecter ou en tout cas de prendre en considération. Donc pour moi, ça n'est pas un vrai problème. Et si l'on veut finalement réaliser un pas important, et dans la lecture qu'a l'Europe de notre système pénal, et dans la réalité quotidienne du fonctionnement des parquets, première instance ou appel, il faut créer un organe qui soit un organe national, qu'on appelle procureur général de la nation, qu'on appelle procureur général de la République, peu importe. Là encore, les concours sont ouverts aux appellations. Ce pôle du ministère public ne peut qu'être confié à un magistrat, et ce magistrat étant garant à la fois de l'autonomie et l'indépendance du ministère public, créant une interface éventuellement avec l'échelon ministériel pour rendre compte, même devant le Parlement, de la conduite de l'action publique au cours de l'année, mais étant vraiment le garant de l'indépendance du parquet. Alors, quand on parle d'indépendance du parquet, nous ne sommes pas des Italiens. Vous savez qu'en Italie, le ministère public est totalement indépendant, mais ce n'est pas seulement le ministère public. C'est chaque magistrat du ministère public est indépendant. Et le procureur de la République ne peut pas lui imposer telle ou telle action. C'est-à-dire que vous avez, je prends un exemple souvent qui était celui de mes anciennes fonctions, parquet de Paris, 120 magistrats, à Rome, 120 politiques. Non. Indépendance du ministère public, c'est l'indépendance de l'institution ministère public et non pas l'autonomie totale de chacun de ses membres. Le principe hiérarchique interne au parquet doit bien sûr subsister. Le rôle de ce parquet, de ce procureur de la nation, ça serait effectivement d'être le responsable national du ministère public, d'insuffler des politiques d'action publique qui soient conformes aux besoins de la société et à l'état de la délinquance. Ça serait aussi, bien entendu, la capacité de gérer la ressource humaine qu'est le ministère public, avec, bien sûr, en appui ou en tout cas en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature. Procureur général de la nation, magistrat, processus de nomination appuyé sur une garantie d'indépendance et de neutralité, je crois que c'est un pas qui reste à franchir. Depuis 30 ans, on fait un pas tous les 5, 10 ans vers cela. Alors, prochain pas, on l'attend avec impatience, et c'est une suite logique. Je pense de plus en plus, je vais être trivial un instant, si vous le permettez. Qu'est-ce que c'est que ce ministre qui, aujourd'hui, et j'ai beaucoup de respect pour M. Urvoas et pour ses prédécesseurs, qu'est-ce que c'est que ce ministre qui ne peut pas donner d'instruction dans une affaire particulière, mais qui va être interpellé devant le Parlement sur la conduite de cette affaire particulière, et qui va dire aux députés, aux sénateurs, ça s'est passé comme ça, mais je n'y peux rien. Ça veut dire quoi? Et donc, c'est bien problématique de remplir un espace laissé vide, et profitons-en pour asseoir le statut du ministère public. Madame l'avocat général, j'ai eu plaisir à vous entendre et j'ai eu plaisir à vous retrouver et à vous réécouter sur le rôle du parquet de la Cour de cassation en matière d'interprétation de la loi, de rôle d'unification du droit. L'interprétation de la loi, c'est le fait quotidien des juristes, magistrats du siège et du parquet général de la Cour de cassation, à qui sont soumis des problématiques d'autant plus nombreuses que la loi changeant tellement souvent, et pas forcément dans des conditions de qualité extrêmes, eh bien les problématiques d'interprétation se posent. Elles se posent dans des conditions parfois si difficiles que le regard croisé de deux juristes qui n'ont pour conscience que leur impératif d'être des juristes indépendants, neutres, tentant de donner le meilleur sens à la loi, bien que ce regard croisé permet une meilleure interprétation, à mon sens, de la loi. Ce rôle d'unification, c'est tout simplement que, M. Jean l'a dit, six chambres, mais peut-être davantage, je l'ai dit dans un discours qui m'a été reproché, mais finalement, il y a peut-être six cours de cassation, il y en a peut-être davantage, parce que chaque chambre, imprimée par sa matière, a des conditions de fonctionnement qui se sont adaptées à chacun de ces impératifs. Mais il y a aussi, on dirait en mathématiques dites modernes, des ensembles communs entre plusieurs chambres, et que parfois des jurisprudences peuvent diverger. Et c'est le rôle aussi du ministère public de dire, voilà, c'est le rôle du parquet général de la Cour de cassation, de dire, attention, il y a deux positions différentes sur un sujet proche, voire commun, comment résoudre ce sujet? Bien sûr, notre procédure, notre fonctionnement de la Cour de cassation connaît ses moyens, ce sont les chambres mixtes, par exemple, mais l'avocat général peut jouer le rôle d'alarme sur des risques d'incohérence. Je crois aussi que le rôle du parquet général est à ce point méconnu que aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit de plus en plus, en tout cas, ce sont certains de nos interlocuteurs qui le disent, c'est qu'en attendant la réforme de la motivation, en attendant que les arrêts de la Cour de cassation soient plus explicites, et par-delà, la communication, on n'en a pas parlé, la communication que fait la Cour de cassation sur ses décisions, très souvent, l'avis de l'avocat général, les conclusions de l'avocat général méritent d'être prises en compte. Elles ont un avantage considérable sur le rapport du conseiller rapporteur, en tout cas celui qui est accessible à la communauté des juristes. C'est que le rapport du conseiller rapporteur, est un rapport qui ne donne pas son opinion, qui ne donne pas son avis sur le sort à réserver. C'est, j'allais dire, cette deuxième partie du rapport secrète, elle est réservée à la chambre dans l'intimité de son délibéré. Et en revanche, l'avocat général, dans ses conclusions, prend parti. Je vous propose la cassation, je vous propose le rejet, je vous propose l'irrecevabilité. Et donc, que la chambre ait suivi ou n'ait pas suivi l'avocat général, en creux ou en plein, ces observations sont aussi des guides de lecture des décisions rendues par la Cour de cassation. C'est si vrai qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme demande systématiquement que, lors de l'examen des requêtes dont elle est saisie, il soit joint les observations du parquet général, s'il y en a. Juste un mot sur une question qui ne m'a pas été posée. C'est l'art des politiques, mais je ne le suis pas. La problématique du procès équitable par le filtrage ou de votre question, M. Sahraoui, je suis content de revoir l'ancien magistrat de liaison algérien à Paris et en France. Premièrement, je pense, et je suis bien sûr tout à fait d'accord avec le Premier Président, mais sur le système anglo-saxon et le système continental, il y a une autre différence dans l'exemple que vous avez cité et qui vaut pour les États-Unis et d'autres pays, c'est que ce sont des pays fédéraux. Et la Cour suprême fédérale est la Cour qui est au-dessus des cours des États elles-mêmes. Donc il y a deux hiérarchies de cours suprêmes, et donc la Cour suprême est forcément en haut de la pyramide, et donc son entrée est beaucoup plus limitée. En revanche, le filtrage perçu comme obstacle à l'accès aux juges, je crois qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que le pourvoi en cassation, le recours à une Cour suprême est d'une technicité, d'une analyse juridique extrêmement fine. Est-ce que c'est un vrai accès au juge de permettre à n'importe qui, non juriste, de saisir une Cour suprême d'écritures dont on se demande finalement ce qu'elles veulent bien dire, où est l'argument soumis à la contestation? Et dans l'exemple que vous a donné M. Jean-Paul Jean, notamment à l'écran, on voit bien que entre les chambres civiles qui connaissent des pourvois formés par des spécialistes de la cassation et la chambre criminelle qui n'est pas, qui ne bénéficie pas de ce régime de spécialisation, le taux de cassation n'a rien à voir. Extrêmement limité à la chambre criminelle, 7 ou 8%, très supérieur dès lors qu'on a un professionnel de la cassation, environ 30% je crois, voire 40% en matière sociale.
Juste, je vais vous donner la précision juridique que vous souhaitiez. Ce qu'a expliqué M. le Président et M. le Procureur général pour le filtrage, la Cour européenne des droits de l'homme a fixé sa jurisprudence dans l'arrêt Delcourt contre Belgique le 17 janvier 1970 et pour la France sur la non-admission, l'arrêt Viard 9 janvier 2014. En gros, il y a des droits absolus, des droits relatifs. Le droit à la Cour suprême n'est pas un droit absolu. Le droit à un recours est un droit absolu. Mais le droit à une Cour suprême dépend des systèmes et il faut que ça soit proportionné à l'enjeu. Et donc, ça, il y a la réponse pour chaque pays. Et dans l'arrêt de 2014, ça concerne la non-admission. Donc, vous voyez, on peut parfaitement le limiter dans des limites raisonnables, si j'ose dire. C'est compatible avec le procès équitable. Deuxième information sur les indemnisations des détentions provisoires. J'ai pas pu mettre à l'écran la lettre d'information et de documentation de mon service qui est diffusé, je le dis pour Madame la directrice du service de la Cour de cassation algérienne, puisqu'on va vous envoyer cette lettre, et vous avez tous les liens, et le lien avec la lettre vous donne le rapport d'activité sur la commission d'indemnisation des détentions provisoires, et vous aurez tous les chiffres d'indemnisation en la matière. Et dernière information sur le filtrage, le 30 mai à Cotonou, au Bénin, Monsieur le Président Louvel sera présent. Il y a l'association des cours suprêmes francophones qui se retrouve, plus de 50 cours suprêmes. Le thème de travail sur lequel je rapporterai, c'est le filtrage des arrêts devant les cours suprêmes. Il me semble que la Cour de cassation algérienne, j'en suis même certain, n'est pas encore membre. Elle est observatrice, mais je pense qu'elle pourrait parfaitement être présente, mais c'est à discuter. En tout cas, le thème technique, c'est le filtrage. C'est à Cotonou le 30 mai. Donc, je pense que peut-être il y aurait une opportunité sur cette question pour tous les pays qui ont les mêmes problèmes que vous.
بعد الانتهاء من المناقشات أيها السيدات أيها السادة الحضور الكريم ها نحن نصل إلى نهاية يوم الدراس هذا والذي توج بفضل مجهوداتكم جميعا بنتائج متميزة وما النجاح المتوصل إليه اليوم إلا برهان على ذلك الأمر الذي يقودني أن أقدم شكري وامتناني لكل من ساهم في هذا النجاح وأخص بالذكر ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم وأخص بالذكر ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم وأنارون بأفكارهم القيمة مما أعطى الفرصة لكل منا من الاطلاع على تشريعات وتنظيمات وتفكير بلدهم في المسائل المطروحة عليهم فيما يخص سواء تصفية الطعون أو الطرق التي مكنت محكمة النقد الفرنسية من التصدي لكثرة هذه الطعون وكذا الكيفية التي تم بها التكفل بالمسألة الأولية وفي الأخير لا يفوتني أن أقدم شكري كذلك للسيدات السادة كتاب الضبط والموظفين المنظمين والمشرفين على إدارة هذا اليوم الدراسي لما بذلوه من جهود، وإلى أن نلتقي في ملتقى آخر أتمنى عودة ميمونة لضيوفنا الكرام، وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Merci
monsieur le président.
Très intéressant comme toujours. On sent qu'on est vraiment ensemble sur les mêmes lignes.
Oui, oui.
Voilà.